En janvier dernier, l'Assemblée nationale accordait aux animaux la qualité d'être vivant doué de sensibilité. Le nouvel article du Code civil a donc scellé le nouveau statut des animaux qui ne sont plus considérés comme un bien meuble. Pour autant, la souffrance animale reste toujours d'actualité et cette loi ne semble pas apporter de résultats concrets pour le moment dans les laboratoires d'expérimentation comme dans les abattoirs. Que dit la loi sur ces pratiques? Peut-on réellement se passer des tests sur les animaux? On en parle avec mes invités qui ont enquêté sur le sujet. J'attends vos messages, toutes vos questions dès maintenant, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Une découverte très inattendue sur la comète Tchoury et c'est à la une de la science aujourd'hui, Axel Villard. Bonjour.
Bonjour Mathieu. Oui, il y a de l'oxygène sous forme moléculaire qui s'échappe de la comète. Une découverte faite par la sonde Rosetta et qui soulève de larges questions, notamment sur la formation de notre système solaire. C'est dans un instant pour la une.
Et c'est Céline Hilla qui réalise aujourd'hui notre tête au carré, préparée par Emmanuel Fournier.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La souffrance animale, ce sera donc le dossier dans quelques instants. Mes invités pour en parler, la philosophe Audrey Jougla, la porte-parole de l'association L214 Brigitte Gauthier et le neurobiologiste Georges Chapoutier. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue Audrey Jougla, vous avez enquêté pendant plus d'un an en caméra cachée dans les laboratoires pour voir de vos yeux la réalité de l'expérimentation animale. Est-ce qu'on ressort indemne d'un tel travail ?
Alors non, comme les auditeurs peuvent, je pense, s'en douter, c'est très dur, hein, c'est vraiment une épreuve, mais c'est vrai que c'est pour l'utilité de ce qu'on fait, du coup, on supporte, mm-hmm. mais on y pense tout le temps après, enfin on le porte avec soi longtemps après.
Ouais. Vous avez failli abandonner en cours de route ou pas ?
Oui, notamment au début où c'était vraiment très compliqué de voir les animaux.
Jean Chapoutier, est-ce qu'il vous semble que la situation se soit améliorée justement pour les animaux de laboratoire quand même depuis quelques années ?
Pour tous les animaux, elle s'est améliorée. Dans les labos en particulier, quand j'ai commencé dans les laboratoires il y a 40 ans, quand je parlais de respect de l'animal, tout le monde rigolait. Maintenant, je ne dirais pas que tous les chercheurs s'intéressent à cette question, hélas, mais plus personne ne rigole.
Et pour autant, est-ce que la situation s'est véritablement améliorée pour les bêtes
de lois qui font que maintenant, on ne peut plus faire vraiment n'importe quoi comme c'était il y a quelques années. Donc, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer les choses, bien entendu.
Brigitte Gauthier, avec L214, vous avez révélé il y a 2 semaines dans une vidéo la cruauté d'un abattoir, celui d'Alès. Qu'en est-il 15 jours plus tard ?
Aujourd'hui, l'abattoir est toujours fermé. Il y a un certain nombre de pompiers qui sont intervenus pour essayer de d'endiguer l'incendie que ça aurait pu allumer, c'est-à-dire faire penser que c'était juste un cas particulier et non pas justement un cas révélateur de ce qui se passe en général dans les abattoirs. Et voilà, nous, c'est la question qu'on aimerait soulever. Qu'est-ce qui se passe derrière les portes des abattoirs? On tue des animaux? De quelle façon? Est-ce que les règlements ne sont pas juste là faits pour nous rassurer?
Allez, on se retrouve dans un instant pour évoquer ce sujet avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent déjà sur franceinter.fr. Il y a donc de l'oxygène sur la comète Tchoury, on le sait depuis hier, et c'est aujourd'hui à la une de la science.
L'air que nous respirons a été produit par des organismes unicellulaires microscopiques qui ont rejeté des petites quantités d'oxygène pendant des milliards d'années jusqu'à créer les niveaux d'oxygène actuels. C'est la façon la plus simple de repérer la vie n'importe où dans l'univers. Car il ne peut y avoir d'oxygène libre dans l'atmosphère que s'il y a de la vie.
Il y a de l'oxygène, mais pas de la vie encore hein, sur Tchoury. Mais cette bonne vieille méthode pour chasser des traces du vivant ailleurs sera peut-être bientôt à revoir, donc au vu de ces nouveaux résultats de la sonde Rosetta. Bonjour Philippe Godon et Olivier Moussis.
Bonjour.
Philippe Godon, vous êtes chef du projet Rosetta pour le CNES. Olivier Moussis, vous êtes professeur d'astrophysique à Aix-Marseille et co-auteur donc de cette publication parue hier dans la revue Nature. Alors justement, vous avez trouvé de l'oxygène, Olivier Moussis, sous forme moléculaire dans les poussières qui s'échappent de la comète Tchoury. C'est la première fois que cet élément est détecté sur une comète, hein ?
Non, ce n'est pas la première fois. Disons que l'oxygène atomique a déjà été observé dans une comète. Là, ce qui est nouveau, c'est que c'est de l'oxygène moléculaire et qui s'échappe directement du noyau. Cela veut dire que l'oxygène était bien piégé en tant que tel dans le noyau de la comète. Et c'est ça la grande nouveauté. C'est vraiment de l'oxygène qui était dans le noyau, non pas un produit de dissociation. C'est vraiment de l'oxygène pur qui était déjà sous cette forme dans le noyau de la comète, qui était emmêlé avec de la glace d'eau.
C'est une grande nouveauté. Est-ce que c'est une mini-révolution dans la conception qu'on a des comètes, justement, aujourd'hui ou pas ?
Alors, une mini-révolution, il y a des petites révolutions toutes les semaines quasiment avec Rosetta, je pense que Phil va dire les choses que moi, mais je veux dire, c'est un élément supplémentaire qui rajoute de la complexité au système, c'est-à-dire qu'en gros, l'oxygène, comment sait-il qu'il soit présent alors que c'est un ultra-volatile, alors que d'autres molécules, comme par exemple le diazote, on a montré il y a quelques mois que cette molécule était parfaite, était très appauvri dans la comète, comment sait-il que l'oxygène soit abondant alors que l'azote ne soit peu présent? Et c'est ce genre de paradoxe qu'il faut résoudre aujourd'hui, par exemple.
Philippe Godon, comment Rosetta a-t-il détecté cet oxygène? Il a en quelque sorte reniflé la comète?
Tout à fait. À bord de la sonde Rosetta, il y a 11 instruments scientifiques, dont un qui s'appelle Rosina, qui possède des spectromètres de masse. Donc avec un spectromètre de masse, on pèse, si vous voulez, les atomes et les molécules. Et donc, sous la forme, on a des raies. Et suivant la hauteur de la raie, on a aussi le nombre de molécules. Donc l'instrument Rosina a détecté la raie de l'oxygène moléculaire.
Les mesures ont été faites il y a 6 mois. Est-ce qu'on sait si ces dégagements continuent aujourd'hui?
Là, probablement, oui, tout à fait.
Olivier Mouzis, pardon, allez-y.
Excusez-moi. Donc tant que ça dégage, tant que l'eau dégage, il doit y avoir l'oxygène qui dégage en même temps. On a noté que les deux molécules étaient très, très corrélées l'une avec l'autre. Ça veut dire que les taux de production de l'oxygène suivent ceux de l'eau. Donc effectivement, il doit y avoir toujours de l'oxygène qui dégage à l'heure actuelle de la comète.
Alors justement, on l'entendait dans le petit extrait documentaire tout à l'heure, quand on cherche de la vie dans l'univers, on cherche de l'oxygène. On a de l'oxygène sur la comète, mais pas de vie. Ça veut dire qu'il va falloir arrêter de lier les deux recherches?
Je pense pas. En fait, la concentration là dont on parle, Olivier me confirmera, mais on est peut-être de l'ordre de 2% de la composition de la comète, donc c'est faible. Sur une planète comme la Terre, où l'oxygène est d'origine a pour origine la photosynthèse, vous avez 21% de gaz d'oxygène.
Oui.
Donc voilà, si on détecte, c'est vrai, très peu d'oxygène, on aura un doute, mais si on détecte sur une exoplanète une concentration forte d'oxygène, à ce moment-là, ça sera un fort indice de vie sur cette planète.
Olivier Mouzis, vous êtes d'accord?
Je vais dans le sens de Philippe, mais à ceci, j'ajouterais que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'une seule molécule comme marqueur. Je pense qu'il y a tout un ensemble de molécules qu'il faut considérer dans leur intégralité pour se faire une opinion. Mais de toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a la clé de ce genre de questions, concernant ce genre de questions. Quels sont les signes de la vie sur une autre planète vue à distance? Je pense que la question est toujours ouverte, hein.
Alors justement, Philippe Godon, est-ce qu'on sait d'où vient cet oxygène et est-ce qu'on a pu le dater aussi?
L'origine, comme l'a dit Olivier, date d'avant la formation du système solaire,
oui,
et donc d'avant la formation de la comète Churyumov-Gerasimenko. Donc ça date d'il y a 4,6 milliards d'années et il faut chercher cet oxygène dans l'énorme nuage de gaz moléculaire qui se trouvait là, à l'origine de la formation du système solaire. Et c'est là où il y a un petit paradoxe, c'est que quand on observe d'autres nuages moléculaires comme ça dans la galaxie, on ne détecte pas l'oxygène dans ces quantités-là.
Olivier
Mouzis. Il va falloir expliquer comment il s'est formé.
Et donc il faut revoir toutes les théories de formation des planètes, Olivier Mouzis?
Écoutez, par exemple, aujourd'hui, des calculs préliminaires montrent qu'il est très difficile de piéger l'oxygène dans la glace dans les conditions de la nébuleuse primitive, le fameux nuage dont parlait Philippe. Donc du coup, aujourd'hui, on ne sait pas comment l'oxygène est arrivé à la comète. C'est une question qui complètement, on ne peut pas y répondre actuellement. Et l'autre question aussi, l'autre problème que l'on a, c'est qu'on ne sait pas comment stabiliser un oxygène dans de la glace d'eau, dans la glace cristalline. Et ça, personne ne sait le faire aujourd'hui. Donc la comète, ce qu'on vient de voir là, c'est un laboratoire naturel qui est extraordinaire, parce qu'on comprend pas tout, c'est clair.
Alors justement, qu'est-ce que vous allez utiliser comme instrument, Philippe Godon, pour essayer d'en savoir un petit peu plus au sujet de cet oxygène? Là, vous avez des appareils à votre disposition quand même.
Je pense que ce ne sera pas grâce maintenant à Rosetta, mais plus au laboratoire au sol.
Mm-hmm.
Il va falloir qu'ils étudient dans les conditions de très basse température dans lesquelles se forment les nuages moléculaires, comment de l'oxygène atomique peuvent s'y retrouver dans ces quantités-là. Donc il y a pour des années maintenant d'études pour arriver à comprendre la composition mesurée de Churyumov-Gerasimenko. Sinon, peut-être que si on arrive à faire refonctionner Philae au niveau du sol, l'instrument Ptolémée pourra nous fournir d'autres éléments, d'autres mesures, mais normalement qui devraient être cohérentes avec celles obtenues par Rosina dans les mois qui ont précédé.
Olivier Mouzis, dans le passé, les scientifiques avaient déjà reniflé une comète, c'était Halley en 1986. Ils n'avaient pas trouvé d'oxygène. Chury est différente des autres comètes ?
Alors, il y a eu surtout une évolution de la technologie. Donc, le spectromètre de masse qui est embarqué sur la mission, dont le nom est Rosina, a une sensibilité, une résolution beaucoup plus élevée que ce qu'il y avait dans les années 80. Bien que ce fût de la même équipe qui est assemblée d'instruments qui a volé sur Giotto, il y avait aussi un spectromètre de masse. Il n'avait pas le pouvoir de résolution, un pouvoir de résolution suffisamment élevé pour observer cette molécule. Néanmoins, les discussions en interne à l'équipe Rosina nous montrent, enfin, on a discuté pas mal avec les anciens PI de l'instrument de Giotto, et on a suspicion de l'apparition d'oxygène dans Halley également. Il y a des raies qui sont coincées autour de cette même masse molaire. Le problème, c'est que voilà, on peut pas le montrer par A plus B, mais en tout cas, les spectres de Giotto ne sont pas incompatibles. Donc, il aurait pu y avoir d'oxygène dans Halley.
Voilà, donc publication Nature hein, hier, qui est reprise d'ailleurs un peu partout. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres publications importantes, Olivier Mouzis, autour de Chury, là, dans les semaines qui viennent ?
Dans les semaines, dans les mois qui viennent, probablement, mais personne ne le sait.
Jolie langue de bois, en tout cas, car vous savez. Mais évidemment, pour l'instant, ça n'est pas publié et on ne peut rien dire. Mais il y a de belles surprises à venir et on s'en fera l'écho, évidemment, dans la tête au carré. Merci beaucoup à tous les deux pour vos Merci. Informations. Axel, on réécoute bien sûr cette une, hein, comme tous les jours.
Avec le podcast de l'émission sur franceinter.fr.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, Toutankhamon était-il un pharaon infirme et malade ? De nouvelles analyses faites en 3D de sa momie dans le cadre d'un documentaire pour la BBC révèle un monarque souffrant, atteint d'ostéonécrose précoce, handicapé par une fracture du genou mal soignée et d'un pied bot. De nouvelles données s'ajoutent à celles déjà connues, avec un paludisme contracté très tôt, des déficiences génétiques héritées de la consanguinité de ses parents. Sa mort à l'âge de 20 ans, selon la légende, dans une course de chars, serait due, selon les spécialistes, à l'état de faiblesse générale de son corps, ce qui peut se comprendre. Les voitures autonomes seront-elles programmées pour vous tuer ? Imaginez cette scène, vous roulez à vive allure, un groupe de piétons se trouve sur la chaussée, pas le temps de freiner, alors soit vous déviez de votre route, mais vous foncez dans le ravin au péril de votre vie, soit vous allez tout droit et vous allez certainement percuter des piétons. Comment seront programmées donc les voitures intelligentes pour ce genre de situation ? Cette importante expérience éthique vient d'être posée par le chercheur français Jean-François Bonnefond dans un article paru avant-hier. 75% des participants au sondage choisissent de sacrifier le conducteur de la voiture. Une étude originale qui montre que les questions éthiques autour des futures voitures autonomes sont encore nombreuses et complexes. Et puis pour finir, une mauvaise nouvelle, préparez vos doudounes car l'hiver sera rude selon les prévisions des ours du zoo de Thoiry. Selon eux, les préparatifs pour l'hibernation ont déjà commencé de manière très précoce. Ils mangent moins, creusent des tanières bien plus profondes que l'an dernier. Seulement une partie d'entre eux avait hiberné en 2014 et l'hiver fut très doux. Les prévisions des ours sont bonnes et depuis plusieurs années, signale le personnel du zoo des Yvelines qui prend ses signes très au sérieux. Vous voilà donc prévenus. Allez, la souffrance animale, le dossier de la tête au carré dans un instant.
Je crois que nous étions tous les deux à la terrasse d'un café. Le soleil me faisait cligner des yeux. Et cela semblait amuser. Quand la nuit s'est abattue au milieu de l'après-midi, nous avons d'abord cru à une éclipse. Comment pouvions-nous deviner que le tout dernier jour de l'été serait celui de l'apocalypse? J'aimais te regarder, te noyer jusqu'à vaciller. J'aimais quand tes yeux dérivaient sur moi, quand on dérivait toi et moi sans se J'en ai jamais douté une seconde que nous étions amoureux. Serait-il possible que la fin du monde m'ait rendu un peu présomptueux? Quand la nuit s'est abattue au milieu de l'après-midi, nous avons d'abord cru à une éclipse. Comment pouvions-nous deviner que tout dernier jour de l'été serait celui de l'apocalypse? J'aimais te regarder tournoyer jusqu'à vaciller. J'aimais ce soir, et je t'ai regardé.
Apocalypse, Pérez sur France Inter.
Mathieu Vidard.
Ce qu'il lui faut, c'est un peu de chaleur humaine.
Jusqu'à 15h.
Je m'en occupe.
Sur France Inter.
La souffrance animale, dossier aujourd'hui de La Tête au Carré. Mes invités pour en parler, Audrey Jougla, vous êtes journaliste et philosophe, auteur d'une enquête, profession animale de laboratoire, qui paraît aux éditions Autrement. Brigitte Gauthier, vous êtes la cofondatrice et porte-parole de l'association L214 Éthique et Animaux. C'est vous qui avez révélé donc les images sur l'abattoir d'Alès très récemment. Et puis Georges Chapoutier, vous êtes neurobiologiste et philosophe, membre du conseil d'administration de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, dont vous avez été le vice-président jusqu'en 2010. Et vous avez écrit en 2013 « Le chercheur et la souris » aux éditions du CNRS avec Françoise Tristani-Poteau. Les questions et les témoignages des auditeurs arrivent en ce moment même sur franceinter.fr, également sur les réseaux avec le mot-clé « l'attaque ». Audrey Jougla, un an d'enquête dans les laboratoires français.
Oui.
Comment est-ce que vous êtes parvenue à franchir la porte de ces lieux interdits au public? Qu'est-ce que vous vouliez voir exactement?
Alors, moi j'ai été militante auparavant, parce que c'est vrai que la question animale m'intéressait depuis longtemps, et c'est vrai que sur cette question-là précisément de la vivisection, je me posais vraiment, sans oser le dire, aux associations la question de la véracité de leurs propos, c'est-à-dire que je me demandais s'ils exagéraient pas un peu, et surtout si ce qu'ils montraient n'était pas forcément le reflet de la réalité, ou si c'était des images manipulées, etc. Enfin, on se pose quand même la question, même si on est opposé à ça.
Donc c'est le doute de la philosophe qui était au cœur de cette démarche, au fond.
Tout à fait. Et donc du coup, c'était important pour moi d'essayer de comprendre, de poser des questions à justement des gens qu'on ne rencontre jamais quand on est dans la protection animale, quand on milite, c'est-à-dire les chercheurs, ceux qui expérimentent en fait. Et j'avais beaucoup de questions à leur poser, et au-delà de ça, voir ce qui se passait vraiment, c'est-à-dire la souffrance animale.
Et comment on peut entrer dans de tels lieux alors?
Alors moi, je travaillais sur un mémoire de philosophie, sur l'éthique animale justement, et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai approché petit à petit les chercheurs, enfin donc les expérimentateurs, les animaliers, mais ça m'a pris un temps fou.
Mais vous êtes fait embaucher quand même?
Non, pas du tout. Non, j'étais c'est-à-dire bénévole, témoin, on va dire témoin oculaire, voilà. Mais c'était pas, je n'ai pas travaillé pour les laboratoires, je n'étais pas rémunéré pour ça du tout.
Jean Chapoutier, les laboratoires, justement les animaleries, ce sont des lieux très opaques?
C'est-à-dire que la plupart des chercheurs n'aiment pas trop justement que les militants rentrent dans ces animaleries parce qu'ils ne comprennent pas la recherche, si vous voulez. C'est vrai qu'il y a un certain de choses qui peuvent choquer les gens qui ne sont pas au courant de ces procédures.
Quoi, par exemple?
Par exemple, la chirurgie même humaine peut choquer. Donc un certain nombre d'expériences animales supposent la chirurgie. Oui. Qui se fait en principe sous anesthésie.
C'est pas ce qui m'a choqué le plus.
Qu'est-ce qui vous a choqué le plus?
Les conditions, j'avais pas anticipé en fait les conditions de détention, c'est-à-dire le quotidien des animaux de laboratoire. J'imaginais que c'était que les expériences en fait qui étaient violentes, et dans les vidéos que j'avais pu voir, c'était vraiment ce qui me. Je pensais qu'il y avait que ça en fait. Mm-hmm. Et en fait, c'est.
Le quotidien, en principe, il y a des normes européennes assez strictes. Qui suppose que les animaux...
En tout cas, vous décrivez la promiscuité des lieux, des animaux qui ne voient jamais le jour.
Hein. C'est ça, oui. Et puis surtout...
Qui portent des sondes pour être nourris, pour certains d'entre eux.
Ça dépend des protocoles, bien sûr. À chaque fois, ça dépend des protocoles. Mais de ce que j'ai vu, oui. Et surtout, ce qu'on se rend pas compte, en fait, c'est que la souffrance, on parle donc des expériences, mais il n'y a pas que ça. Il y a les conditions carcérales, en fait, des animaux, puisque c'est vraiment ça. Et c'est surtout des animaux qui sont rendus malades ou fous, si on parle d'expériences de psychiatrie, avant les expériences ou pour le besoin des protocoles. En fait. Donc il n'y a pas que les expériences en elles-mêmes.
Ouais. Brigitte Gauthier, est-ce que c'est plus facile au fond d'infiltrer les laboratoires?
Les abattoirs?
Les abattoirs, pardon. Oui.
Eh ben non. non, c'est pas plus facile. C'est des lieux où on a rarement accès. Depuis le début de L214, on a dû révéler 4 ou 5 enquêtes en abattoir, ce qui est vraiment très très peu. finalement, alors qu'ils tournent à plein régime, c'est 3 millions d'animaux terrestres qui sont tués tous les jours dans les abattoirs.
Alors comment vous parvenez à pénétrer en général dans ces lieux ?
En 2008, c'est un des membres d'L214 qui se fait embaucher par un abattoir à Metz pour montrer justement ce qui se passait. Pareil, pour aller voir, on a des images en tête qui viennent d'autres associations, qui viennent de l'étranger. On nous répond gentiment qu'en France, non, c'est pas pareil. Là, à chaque fois qu'on a pu aller dans un abattoir, on avait d'abord les réponses des abattoirs qui nous disaient « Non, vous inquiétez pas, il y a une réglementation, il y a des services vétérinaires sur place. Tout est fait de façon à limiter la souffrance des animaux. » Et chaque fois qu'on peut avoir accès, on se rend bien compte que, quels que soient les efforts qui sont faits pour respecter la réglementation, les animaux, enfin c'est violent, c'est très violent les abattoirs. Et c'est ce qui est insupportable dans les images, c'est que c'est violent. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui a choqué les gens dans les images de l'abattoir d'Alès ? C'est pas vraiment le fait que ce soit fait selon la légalité ou l'illégalité. C'est vraiment cette mise à mort violente, continue, des animaux, pour quelque chose qu'au fond, on sait tous que c'est pas nécessaire.
Georges Chapoutier.
Oui, est-ce que c'est exact ce que j'ai beaucoup entendu dire, le fait que il y a une loi française qui dit que, sauf pour des dérogations religieuses, les animaux doivent être étourdis avant d'être abattus.
Mais là, les vidéos montrent le contraire.
Apparemment, il y a énormément de cas. Alors, est-ce que vous auriez des chiffres où cette loi n'est pas appliquée, c'est-à-dire où les animaux qui sont destinés à la commémoration courante, pas religieuse, ne sont pas effectivement assommés comme ils l'auraient dû l'être au départ.
En tout cas, on voit qu'ils sont mal étourdis.
Voilà.
Mal
voilà. Étourdis. Alors, il y a les deux. Il y a les abattages avec et sans étourdissement sur les images qu'on a montrées. La mise à mort sans étourdissement n'a pas le monopole de la cruauté. Alors, sur les chiffres, il y a des chiffres qui sont contestés. On n'a pas de chiffres exacts sur le nombre d'animaux qui sont abattus sans étourdissement. Mais il ne faut pas se rassurer avec étourdissement. Étourdissement, ça veut dire soit le crâne fracassé et une partie du cerveau détruit, soit gazé, comme on le voit sur les cochons, c'est-à-dire asphyxié, comme si vous vous noyez, mais en plus avec un gaz qui vous brûle la gorge, soit par électronarcose, entendez une petite électrocution. Donc on parle d'étourdissement, c'est pas un petit mouchoir de chloroforme sur le nez, c'est pas des animaux qui viennent se suicider, c'est vraiment juste les rendre inconscients en plus, puisqu'on veut pas qu'ils soient morts pour que le cœur continue de fonctionner pour évacuer le sang. Voilà. Et alors avec l'abattage sans étourdissement, effectivement, vu par la Fédération des vétérinaires européens, c'est encore pire, puisque là, les animaux sont complètement conscients au moment où ils sont égorgés. Tous les animaux sont égorgés, hein, que ce soit avec ou sans étourdissement, tous, le sang coule. Ce sont des animaux qui perdent la vie alors qu'ils n'auraient pas voulu. On le voit bien sur les images, les chevaux qui cherchent à reculer, les cochons, pareil, qui cherchent à y échapper. Ce petit veau-là qui saute à travers le box de contention. Ce sont des animaux qui résistent dans votre ouvrage aussi, Audrey. On sent bien que les animaux ferment les yeux, par exemple, pour échapper.
Il y a beaucoup de points communs,
ouais. Voilà, ce sont des êtres sentients qui ont la capacité à ressentir des émotions et qui ont le désir de vivre. Et nous, on les prive de leur liberté. On choisit le moment où ils sont morts, on choisit le moment où ils naissent, tout ça pour un caprice au final.
C'est le cas de ces animaux de laboratoire, et c'est ce qu'on découvre d'ailleurs dans votre enquête, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui sont destinés vraiment aux expérimentations,
exactement,
qui naissent et qui meurent dans ces laboratoires, qui sont destinés à ça uniquement.
Tout à fait, et souvent, ça m'a été justement dit un peu comme une excuse, c'est-à-dire, de toute façon, ils sont nés pour ça, ils sont élevés pour ça, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le cadre de l'élevage. Et je comprends pas cette justification, parce que je vois pas en quoi c'est une justification de dire on les crée pour ça. Au contraire, c'est même pire, on les crée pour une vie de souffrance. Enfin,
quand et il y a des multinationales qui sont réellement dédiées à ça, hein,
tout à fait.
Faire naître ces animaux.
Exactement, et souvent ils ne font pas que ça, c'est-à-dire que souvent c'est des multinationales...
Qui fournissent les croquettes par exemple.
Exactement,
aussi, hein.
et qui sont présentes dans... Enfin, j'ai en tête une multinationale en particulier qui est présente dans plus de 38 pays.
Arlan,
voilà,
vous
Arlan,
citez son nom.
Exactement. Et qui gère une chaîne considérable, c'est-à-dire sur l'expérimentation animale, ils fournissent les animaux, le matériel pour les expériences, l'alimentation, et ils sont en partenariat avec un laboratoire pharmaceutique. Donc c'est
ça
vraiment...
génère beaucoup d'argent. Hein.
Exactement.
Jean Chapoutier.
Si je peux replacer la question de façon un peu plus générale, philosophique, si j'ose dire, on se place dans un problème moral qu'on n'est pas obligé d'adopter au départ.
Mais c'est important de planter le
par
décor.
Par exemple, dans le livre de Audrey Jlougla, il y a un chercheur quelque part qui dit, en substance, hein, je vais résumer, les espèces animales sont toujours battues entre elles, les plus fortes mangent les moins fortes, l'homme est le plus fort, après tout, c'est normal qu'ils profitent des autres et qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Donc, si on raisonne comme ça, il n'y a plus de problème moral. Hein. Bon, tous les présents autour de cette table...
Il n'y a pas de morale du tout, non.
Il n'y a pas de morale du tout. Entre les espèces, j'entends. La morale se limite à l'espèce humaine. Bon, bien entendu, aucun des partisans de cette table aujourd'hui ne partage cette position. Mais il faut bien voir déjà qu'on se place dans une position morale, qui est que l'homme a un devoir moral vis-à-vis d'espèces autres que la sienne. Parce que l'homme est un animal particulier, que ni le loup ni l'ours ne se souviennent sur ses problèmes. Nous avons une capacité morale et nous avons le devoir d'en faire participer les autres espèces. Donc ça, c'est un premier point. Alors ensuite, en ce qui concerne l'expérimentation animale, le problème, alors c'est tout à fait différent pour la question de l'élevage en batterie, l'élevage industriel. L'expérimentation animale repose sur le conflit entre deux soucis moraux. L'un qui est de respecter l'animal, on en parle beaucoup. L'autre, c'est d'améliorer la santé humaine.
C'est exactement voilà. Ce à quoi vous avez été confronté, Jean-Charles
Potier. Voilà,
Chipotier,
moi, hein. Le livre que mon
livre, c'est très particulier.
Oui,
c'est
pas une position facile.
Et à la fois militant de la cause animale.
Il dit à la fin de son livre que c'est une position très difficile à tenir.
C'est la vôtre.
C'est pas une position facile. Bon, et donc comment alors en morale pratique, on l'a vu pour des tas d'autres choses, pour l'euthanasie, l'avortement, etc. Il n'y a pas une solution en tout blanc tout noir. Et si je peux faire un reproche au livre d'Audrey Jouglas, qui est, c'est bien que vous ayez fait ce témoignage, c'est bien que vous manifestiez votre colère, mais quelle est la conclusion? Quelle est votre conclusion? Est-ce qu'il faut supprimer tout de suite l'expérimentation? Ou bien est-ce qu'il faut, comme je le pense moi, personnellement, imaginer la suppression à terme et faire dans l'immédiat le plus en plus d'améliorations pour qu'elle soit améliorée petit à petit?
Alors, Audrey Jouglas, en quelques mots, on y reviendra.
Oui,
hein,
pour,
bien sûr.
Pour être très schématique et rapide, moi j'ai été vraiment profondément étonnée en fait, du nombre d'expériences qui pourraient être évitées ou du nombre d'animaux qui pourraient être épargnés. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on me pose la question du protocole où il n'y a pas d'alternative et pour lequel il y a une amélioration très nette de la santé humaine. Et j'ai envie de dire, j'aimerais bien qu'on en soit là, c'est-à-dire j'aimerais bien qu'on en soit sur uniquement cette question-là, mais il y a tellement à faire avant, il y a tellement d'expériences redondantes, il y a tellement de choses qu'on pourrait éviter avant de se poser la question extrême du protocole pour lequel il n'y a pas d'alternative et pour lequel il y a une nette amélioration de la santé humaine. Il y a énormément de choses à faire.
Allez, on y revient dans un instant, suite de notre discussion. Et puis bien sûr les messages des auditeurs qui arrivent.
My people, dark brown shade of my skin, only art color to my tears that splash against my hollow bones that rocks my soul. Looking back over my past dreams that I once knew, wondering why my dreams never came true. Oh, somebody tell me, what can I do? Yeah. Something is holding me back,
holding me back.
Is it because I'm black?
Yeah. In this world of no pity, I was raised in the ghetto of the city.
Mama, she worked so hard to earn every penny. Something is holding me back.
Holding me back.
Is it because I'm black?
Is it because I'm black? Yeah. Something is holding me back.
Is it because I'm black?
Yeah. Tell me, is it because of my color? Something is holding me back.
Like a child stealing his first piece of candy, got caught.
Wandering round life's corner, somewhere I got lost.
something is holding me back. Is it because I'm black?
I want to know, I want to know, yeah.
Something is holding me back.
People, is it because I'm black? Tell me, can't you see?
Somebody, please tell me, is it because I'm black?
Is it because of my color?
Is it because I'm black? Tiken Jafakoli et Ken Boos.
L'œil a quasiment disparu, rongé par le produit. Pour ce test-là, on choisit toujours des lapins parce qu'ils ont moins de larmes que les humains et ne peuvent donc pas laver le produit toxique qu'on leur met dans l'œil. Nous sommes dans un laboratoire sous-traitant de grandes marques françaises de cosmétiques. Les ingrédients testés ici serviront notamment à fabriquer des parfums et des crèmes. Ces images ont été tournées clandestinement par cet homme, nous l'appellerons Michel. Enquêteur pour l'association de protection animale One Voice, il était animalier dans ce laboratoire.
Je pense que personne n'a entendu crier des lapins. Moi, je peux dire que si.
Autre test fréquent de toxicité, la résistance d'un produit aux rayons du soleil. Les animaux sont épilés, enduits de crème et placés sous des lampes à UV.
Normalement, les animaux doivent être anesthésiés lors de l'expérience, parce que c'est une expérience qui est très douloureuse. Ce laboratoire, par exemple, a déjà oublié des animaux sous les lampes, qui sont morts cramés. Là, en l'occurrence, on voit très bien qu'ils bougent sur ce côté-là, celui-ci.
Voilà, documentaire France 3 en 2012. Audrey Jougla, Brigitte Gauthier et Georges Chapoutier, nos invités pour parler de la souffrance animale. Que dit la loi par rapport à ces pratiques, Georges Chapoutier, sur cet exemple précis des cosmétiques, par exemple?
L'expérimentation animale est très réglementée pour un certain nombre d'animaux. On n'a pas beaucoup de définitions d'animal pour ce qui est des vertébrés et maintenant des céphalopodes, c'est-à-dire des pieuvres. Donc là, il y a un certain nombre de règlements qui disent on peut faire certaines choses, on ne peut pas. Mm-hmm. Mais par exemple, lorsqu'il y a des dérogations, pour ce, comme par exemple le test de Dresde qu'on évoquait tout à l'heure.
Qu'est-ce que c'est?
Mais c'est ce test de mettre devant des produits toxiques dans l'œil des lapins, des choses comme ça. Mm-hmm. Je pense que personnellement, je pense que tous les produits cosmétiques, 99% des expériences animales devraient être supprimées. En ce qui concerne les produits cosmétiques, j'ai bien dit. Hein.
Oui.
Alors, pourquoi je dis pas 100%? Parce qu'on peut pas exclure, effectivement, le jour où un chimiste met vraiment au point une molécule totalement nouvelle. Là, d'après la loi, puisqu'on se repère à la loi, il faudra quand même essayer de savoir si elle n'est pas toxique chez l'homme.
Mmh.
Mais dans la quasi-totalité des cas, ces tests abominables devraient être supprimés.
Et ce serait des millions d'animaux sauvés, évidemment, de ces expériences.
Tout à fait. Je ne parle pas de recherche fondamentale, je parle de recherche cosmétique, on est bien d'accord là-dessus.
Audrey Jougla.
Oui, sur la toxicologie, il faut savoir qu'il n'y a pas, enfin on parle de toxicologie, il n'y a pas que les cosmétiques, il y a aussi les polluants agricoles, les pesticides, les solvants qui sont testés. Mm-hmm. On ne l'imagine pas forcément, souvent c'est très réducteur, on imagine que les expériences c'est médicaments, vaccins, on va dire, et puis cosmétiques. Le spectre, l'éventail des expériences est immense en fait, et ça on ne se rend pas compte quand on...
Mais la loi l'impose, il faut bien voir ça aussi, hein. La loi impose.
Pour les médicaments, l'autorisation, l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché impose ça. Mais la toxicologie ne recouvre pas que les cosmétiques.
Alexandra sur Twitter nous dit ceci, la plupart des labos font attention à leurs animaux puisque c'est leur matériel d'étude et cela peut influencer les résultats. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Brigitte Gauthier?
Je pense que c'est comme pour les ouvriers d'abattoir, c'est-à-dire que les personnels qui sont dans les labos, il faut qu'ils se blindent parce que les animaux qu'ils voient, ce sont des animaux qui sont souffrants. Dans les abattoirs, c'est des animaux qui vont mettre à mort, qui résistent, donc qui les entravent dans leur travail. On ne peut pas s'attacher aux animaux qu'on va faire souffrir. Enfin,
mais tout est fait,
on est obligé de se blinder.
Pour une mise à distance, hein, c'est ce que vous dites, Audrey Jougla.
Tout à fait. Et puis, juste sur ce point de justement respecter, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu aussi très souvent, de dire on ne peut pas, vous rendez bien compte, on ne peut pas maltraiter notre instrument de travail, puisque c'est vraiment des instruments, l'animal est instrumentalisé. Et effectivement, ça paraît logique, donc on se dit oui, pourquoi? Il faut quand même se rappeler qu'il y a des expériences de privation de sommeil, des expériences de dépression, ce genre de choses, l'animal ne peut pas aller bien. Donc quand on se pose la question de la souffrance, il n'y a pas que, c'est pas juste une piqûre comme on le voit souvent sur les photos avec une petite souris blanche et une seringue à côté. Il y a des expériences extrêmement douloureuses.
Et vous les avez vues, évidemment. Vous décrivez l'ambiance des couloirs aussi, hein.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte de ce que c'est quand on voit des vidéos. On imagine la souffrance, mais c'est très bruyant, c'est des animaux qui sont souffrants, donc c'est pas des animaux qui sont dans un état normal. Mmh. Et c'est pour ça que quand on parle de points limites, c'est notamment ce qui est imposé par la réglementation, la directive européenne, c'est-à-dire on arrête la souffrance quand le protocole le permet, donc là encore c'est très modéré. Ouais. C'est très compliqué de savoir justement ces points limites de souffrance. Ouais.
Jean Chapoutier, comment on estime la douleur d'un animal? Et puis ensuite évidemment la limite entre la douleur et la souffrance.
Donc il faudrait peut-être d'abord définir effectivement, où on définira après le douleur et souffrance. Oui, oui, alors il y a cette notion de point limite, c'est-à-dire qu'on crée quelque chose qui est désagréable, par exemple il y a l'histoire de la plaque chauffante. La plaque chauffante, c'est pas du tout une plaque où on fait cuire un animal. C'est une plaque où on va progressivement augmenter la température. Et il va arriver un moment où l'animal va sortir la patte parce que ça va devenir désagréable pour lui. Donc c'est ça le point limite. Donc en théorie, ça minimise au maximum la souffrance animale. En théorie. Sous réserve que ce soit bien fait, etc., etc.
Sous réserve.
Sous réserve que. Bon. Mais si vous voulez, l'idée, c'est que on va mesurer en quelque sorte le point limite, le moment où l'animal va en quelque sorte.
Alors donc il y a des échelles et puis selon les espèces, parce que toutes les espèces ne ressentent pas la douleur de la même manière.
Là, il faudrait peut-être définir ce qu'on appelle la souffrance et la douleur. On a tous. Implicitement, on a parlé ici des vertébrés, finalement.
Oui, c'est ça.
Et des mammifères. Bientôt, les animaux, c'est beaucoup plus vaste que ça.
Oui.
Quand la
Patrice
loi...
nous dit ceci, un philosophe vegan prétendait que seuls les animaux vertébrés souffraient. Comment peut-on être sûr alors que de nombreux invertébrés sont pourvus d'un système nerveux?
On peut pas le définir. Et maintenant, non seulement on peut pas le définir, mais on peut considérer maintenant qu'il y a au moins un groupe d'invertébrés qui sont des escargots transformés, c'est les pieuvres, etc., qui souffrent au moins autant que les vertébrés. Mm-hmm. Donc, il y a au moins ce critère-là. Et de fait, maintenant, on tend à les inclure dans la protection, des animaux d'expérience.
Donc, alors, chaque
espèce. Il y a les poissons aussi. Hein.
Alors, les poissons sont des vertébrés. Oui. Donc, mais alors, si vous voulez, comme dans tout le monde vivant, il y a des échelons, des échelles. Il y a des animaux qui ne souffrent pas du tout.
Lesquels?
Les éponges, par exemple. Les éponges, ça n'a même pas de système nerveux, ça ne souffre pas. Mmh. La plupart des animaux ont ce qu'on appelle de la nociception. C'est une réponse à un élément qui sera nocif pour l'organisme. Un excès de chaleur, etc. C'est ce qu'on appelle la nociception. Mmh. En fait, pour que ça devienne douleur, on admet que lorsqu'il y a nociception et émotion, il y a douleur. Et lorsqu'il y a nociception et cognition, c'est-à-dire finalement conscience, il y a souffrance. Voilà. Ouais. Donc, alors, formulé comme ça, dans l'état actuel des connaissances, parce que les connaissances changent aussi. Dans l'état actuel des connaissances, il y a deux groupes d'animaux qui clairement ont de la douleur et de la souffrance. Ce sont les vertébrés, depuis les poissons jusqu'aux oiseaux et mammifères, et puis les fameux céphalopodes comme les pieuvres ou les seiches. La question reste ouverte pour d'autres groupes, les homards par exemple. Mm-hmm. Donc voilà une espèce de définition générale. Et bien entendu, en général, quand on parle des animaux, les gens pensent tout de suite plutôt aux mammifères. Mais un argument quand même pour vous dire que l'expérimentation animale est quand même plus contrôlé que certaines autres choses. Un exemple que j'aime bien citer, un chercheur n'a pas le droit de torturer un poisson qu'on évoquait tout à l'heure pour le plaisir. En revanche, envoyer une truite dans l'eau bouillante pour la gastronomie, là c'est ok. En d'autres termes, il serait bon, je ne défends pas du tout le fait qu'il ne faut pas réglementer l'expérimentation animale, et bien entendu il y a beaucoup de choses, on va en parler tout à l'heure j'espère, qu'on peut améliorer. Mais il faudrait aussi améliorer le reste, et notamment les animaux de consommation et d'élevage.
Brigitte Gauthier.
Oui, et on peut rajouter que sur l'expérimentation, les animaux se comptent en dizaines de millions à être expérimentés. Quand on parle de l'alimentation, on est plutôt de l'ordre de 1000 milliards d'animaux par an.
Oui,
qui
tout
sont
à fait, il y a une vraie question de proportion.
C'est ça, c'est 11 millions d'animaux pour les expériences en Europe chaque année,
hein,
Audrey Joula, et puis 2 millions en France, sont les chiffres.
Exactement, et c'est assez parlant de se dire ça, parce que c'est des animaux qu'on ne voit jamais, c'est-à-dire qu'ils sont en sous-sol, ils sont, personne n'a jamais vu, les citoyens lambda n'ont jamais vu en fait d'animal de laboratoire, alors que des vaches, ils peuvent en avoir vu, voilà. Ouais. Donc l'animal de laboratoire, il est caché. Se dire, voilà, 2 millions par an, 2 millions
de... Il faut voir aussi que les mesures barres, c'est dans 95% des souris et des rats. Hein. En général, des souris blanches et des rats blancs. Oui.
Alors, il y a quand même toutes les espèces.
Il y a d'autres espèces, mais majoritairement, c'est ça.
Alors, les chiens, évidemment.
Les chats, les chevaux aussi. Il y a eu un scandale alimentaire il n'y a pas très longtemps sur les chevaux qui étaient expérimentés par Sanofi, qui se sont retrouvés dans le circuit alimentaire. Donc, ça prouve bien qu'il y a quand même des chevaux, c'était la preuve. Oui. Et c'est pour ça qu'on en a parlé, parce que ça...
Qu'est-ce qu'on fait comme type d'expérimentation sur les chevaux?
Alors moi j'en ai pas vu, mais il y avait notamment pour Sanofi tout ce qui concernait alors ils ont parlé des vaccins notamment, mais ils ont pas voulu parler du reste, ils se sont contentés de citer les chevaux cobayes.
Et les primates, Jean Chapoutier.
Il y a des primates aussi bien sûr. Ouais.
Alors certains sont interdits. Hein.
Alors
les grands singes interdits.
Les grands singes sont interdits, et ne serait-ce peut-être pas seulement pour des raisons morales, parce qu'ils sont tellement chers que finalement, bon, oui. ceci
c'est
dit...
C'est pas seulement parce qu'ils nous ressemblent.
C'est pas seulement parce qu'ils nous ressemblent. Ceci dit, les grands sages, je peux me permettre de prendre leur défense, parce que j'adore les grands sages, c'est pas la recherche expérimentale qui est leur plus grand danger actuellement. Puisque actuellement, on va vers leur extinction pour des raisons de braconnage, de viande de brousse, etc., qui sont au-delà de la recherche, bien entendu.
Et sur les primates, justement, moi j'avais une question intéressante, c'est que la directive européenne actuelle limite les expériences qu'on peut faire sur les primates. Et c'est-à-dire qu'elle limite, en fait, les expériences qui doivent être strictement nécessaires à la santé humaine. Et du coup, ça pose la question, je pense, des autres expériences. C'est-à-dire que si on se dit, sur les primates, on ne peut faire que des expériences strictement nécessaires à la santé humaine, qu'est-ce qu'on fait sur tous les autres animaux ?
Oui, ça pose un problème de fond qui est le suivant, c'est que la recherche fondamentale et la recherche appliquée sont très fortement liées. Et les chercheurs vous diront toujours, ah ben oui, mais l'aspect appliqué, il n'est pas directement là, mais il va dériver automatiquement de la recherche fondamentale. Donc ça, c'est un problème très difficile, qui fait que ces problèmes-là ne peuvent être guère traités que par des gens qui ont une expérience de la question elle-même.
Oui, mais avouez que c'est quand même compliqué de se dire, sur les primates, c'est strictement nécessaire à la santé humaine, alors les autres...
Oui, tout à fait.
Voilà.
Le couple Turner, Tina et Ike, à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
La souffrance animale avec Audrey Jougla, ce livre Profession animale de laboratoire aux éditions Autrement, Georges Chapoutier, avec un autre livre publié il y a un petit peu plus longtemps, Le chercheur et la souris aux éditions du CNRS. Et puis Georges Chapoutier, on peut également signaler cette revue qui vient tout juste de paraître sur les enjeux de la recherche autour de l'animal, justement.
Tout à fait, qui a été publié par l'Histoire de la recherche contemporaine, qui est une revue du CNRS aussi. Et j'ai animé le dossier, j'ai fait parler non seulement des expérimentateurs biologiques, mais aussi des juristes, des philosophes, des moralistes, etc., qui tous réfléchit sur l'expérimentation animale sur un plan scientifique.
Et puis Brigitte Gauthier, L214, on vous avait reçu il y a quelques mois autour de l'affaire des poussins.
C'était
en août dernier.
Voilà.
Qu'est-ce qui s'était passé exactement ?
Donc on avait pu montrer les images issues d'un couvoir où on met à mort les poussins inutiles, notamment dans l'industrie de l'œuf, les coqs qui ne pondent pas d'œufs. 50 millions de poussins chaque année sont broyés ou gazés dans les couvoirs.
Extrait reportage.
À peine né, les poulets jugés non viables sont euthanasiés par caisse entière.
On voit le tuyau du broyeur donc, qui va rejeter des bouts de poussins et de coquilles d'œufs dans la benne.
La pratique peut choquer, mais elle est légale.
Là, c'est le tas de poussins broyés.
Elle est censée ne pas faire souffrir les animaux.
Et là, on voit le zoom, hein, donc avec des bouts de pattes, des mouches partout.
Mais l'entreprise semblerait prendre des libertés avec la législation.
Donc ici, c'est une pratique qui consiste à verser les poussins dans les sacs poubelles, 4 ou 5 caisses par sac environ. Et comme on va le voir, ils sont étouffés par la suite, donc en appuyant sur le sac, pour vider un maximum d'air et que les poussins survivent le moins longtemps possible. Mais le sac continue à bouger quand même pendant quelques minutes. Voilà. Ici, on voit le sac qui bouge avec les poussins qui agonisent.
Oui, envoyé spécial le 30 avril dernier autour donc du cas des poussins avec une pratique du broyage, Georges Chapoutier, qui est légale, hein, il faut bien rappeler.
Qui est
légale,
hein, et qui existe toujours.
Oui. Brigitte Gauthier, qu'est-ce qu'on peut espérer par rapport au sort de ces animaux? Il y a eu là aussi des réactions, des résultats, des initiatives après que vous ayez révélé au public ces pratiques?
Alors ça a choqué l'opinion publique, mais aussi un certain nombre de parlementaires qui ont du coup interrogé le ministre de l'Agriculture. Voilà, auquel il a répondu oui, on va chercher, mais comme à chaque fois, ça joue un peu le rôle de pompier, ne vous inquiétez pas, on a les choses bien en main, et en fait, on oublie à chaque fois la question essentielle, c'est pourquoi on fait ça, est-ce que ça a une nécessité, est-ce que ça répond à un besoin vital pour les êtres humains, en fait, la question elle tranche déjà, quoi, et on est juste sur une question d'argent, finalement, de relevé économique, et puis de spécisme, c'est-à-dire cette discrimination qui est faite entre les êtres humains et les autres animaux, où n'importe quel intérêt, même le plus trivial d'un être humain, prime sur la vie entière d'un animal. Voilà.
Christophe sur Twitter nous dit « Certains militants s'opposent à la consommation des œufs et autres produits laitiers. Pourquoi leur consommation ne tue personne? Ce sont les conditions d'élevage, l'industrie qu'il faut modifier. » Ben, c'est tout le problème, hein, d'ailleurs.
Mais en plus, ça tue. C'est pas que ça tue personne, c'est que ça tue. Donc, dans l'industrie de l'œuf, là, on vient de voir les poussins broyés d'une part. Et puis, à la fin de la période de ponte qui dure à peu près un peu plus d'un an, donc vers un an et demi, toutes les poules, que ce soit n'importe quel élevage, toutes les poules finissent à l'abattoir. Donc, elles ont pondu des œufs pendant toute l'année, qu'elles soient dans des cages, qu'elles aient un petit accès au plein air. Elles sont toutes tuées. Pour les vaches, le lait vient des vaches. Pour qu'elles aient du lait, il faut faire naître un veau. Veau qui leur est retiré tout de suite puisque les humains veulent récupérer le lait. Si c'est une femelle, elle va venir remplacer sa mère un peu plus tard. Et si c'est un mâle, lui, il va dans l'industrie de la boucherie quasiment immédiatement. Et la vache, quand elle a fini, c'est elle qu'on retrouve en steak haché dans les supermarchés. Elle va aussi à l'abattoir parce qu'elle est devenue stérile, etc. Et ça peut rejoindre aussi sur l'expérimentation animale avec les vaches à hublot, etc.
Oui, et la question du profit aussi. Enfin, c'est quand même une question qui est en commun dans l'exploitation animale sur les abattoirs ou l'expérimentation animale. On l'oublie plus peut-être sur l'expérimentation animale, mais la question du profit financier, économique est importante.
Pierre nous dit « J'ai travaillé aux abattoirs de Grenoble en 89, je peux vous garantir que le problème d'Alès n'est pas une nouveauté. J'étais la seule personne affectée à l'entretien technique et compte tenu de la charge de travail dont j'avais la responsabilité, je n'avais plus le temps de m'occuper des étourdisseurs électriques, plus le temps de m'occuper des pistolets en panne. Donc beaucoup d'animaux étaient tués violemment. L'hygiène non plus n'était pas respectée parce que les gens qui travaillent, on les appelle des tueurs sur leur fiche de paye, sont absolument désensibilisés au fait des quantités importantes d'animaux sacrifiés. »
Obligé, enfin, sinon ils ne peuvent pas tenir. Il y a un gros turnover dans les abattoirs et je pense dans les labos aussi, parce que s'ils n'arrivent pas à se désensibiliser, mais on devient complètement fou. D'un côté, on nous apprend à être respectueux des animaux, le petit chat, le joli lin, et de l'autre côté, là, ils se retrouvent dans un milieu où on les prive de leur vie alors qu'ils résistent de toute leur force. C'est juste pas possible psychologiquement.
Audrey Jougla, vous avez beaucoup discuté avec les animaliers, évidemment. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vous disent de leur travail, de leur engagement?
Il y a plusieurs justifications. Enfin, moi, c'est un peu ce que j'appelle parfois la dissonance cognitive. C'est quand on arrive à mettre de côté certaines choses et à faire du coup une scission en fait avec son propre jugement. Et parmi les justifications, il y avait souvent des justifications très glissantes, hein, comme si c'est pas moi qui le fais, ce sera un autre. De toute façon, vaut mieux que ça se fasse en France parce que c'est un peu plus encadré qu'ailleurs. Et si la législation devient trop contraignante en France, on ira ailleurs. Donc évidemment, c'est pas une justification ça. Sinon, évidemment, de toute façon, pour les animaliers, c'était vraiment nous, on fait pas les expériences, on soigne, on s'occupe des animaux. Donc il y avait aussi cette.
Mais ils vous ont confié ne jamais dire à l'extérieur ce qu'ils faisaient vraiment.
Oui, exactement.
Beaucoup masquent la réalité de leur travail.
Exactement.
Donc comme quoi, il y a quand même un petit problème. problème de conscience.
Il disait juste animalier, voilà, il précisait pas de laboratoire.
Jean Chapoutier. Je voudrais enchaîner là-dessus, savoir qu'est-ce qu'on pourrait, parce que là, on va vers le terme de l'émission, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses.
Alors, c'est mon co-animateur, Jean Chapoutier, aujourd'hui. Il fait très bien son boulot, parce que lui, il regarde la pendule.
Donc, alors, on a parlé de la redondance de certaines expériences particulières. Tout ça, on peut le supprimer par des échanges de données, par des banques.
La mutualisation des données,
ça,
évidemment.
C'est un point très important. Ouais. La deuxième point, c'est de former les chercheurs. Parce que exactement. Les animaliers aussi.
À quoi?
À la sensibilité à l'animal, à ce que c'est.
Et aux méthodes alternatives
aussi. Ouais. On va en parler. Ouais. Mais à ce qu'ils soient sensibles aux animaux qu'ils utilisent. Mm-hmm. Ça joue beaucoup parce que c'est eux qui font les expériences.
Ils vont ils vont plus pouvoir faire les expériences. Enfin, c'est pas possible si on se laisse.
Certaines. Ils vont en faire certaines. Mais ils en feront moins. Par exemple, je prends un exemple, on parlait des primates. Ceux qui veulent guérir l'épilepsie photosensible, ils vont s'adresser à des babouins photosensibles. Mais ils feront peut-être pas n'importe quoi dessus. Ils vont peut-être limiter les choses. Donc, je pense que la formation des chercheurs est un point important.
Bon. Autre proposition.
La fameuse loi des 3 R que tous les chercheurs sérieux respectent, qui est de raffiner les protocoles pour les rendre moins douloureux quand on peut, réduire le nombre d'animaux, ça dans ce sens-là, bien entendu, et puis remplacer les fameuses expériences de remplacement. Mmh. Et alors là, on pourrait encourager ça beaucoup, et on ne le fait pas assez.
Et en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire alors aussi?
Je voudrais terminer sur le remplacement. L'association à laquelle j'appartiens, la Fondation Droit Animal et Sciences, a fait un prix, qui est le prix Kassler, du nom du prix Nobel, qui était notre premier président, qui récompense les techniques de remplacement. Bon. C'est une initiative privée. Il serait grand temps que les pouvoirs publics encouragent
ça. Exactement. Il n'y a pas de financement.
Il n'y a pas de financement. Et que, par exemple, les chercheurs qui veulent faire des carrières, il y en a beaucoup. Mm-hmm. Eh bien, s'ils pouvaient faire une carrière dans les techniques de remplacement, eh bien, ils seraient très contents aussi. Oui. Donc, il y a un encouragement. Oui, pardon.
Jean Chapoutier, oui, en tant qu'individu, justement, comment on peut aussi aider, peut-être, pour éviter ce type de situation, en tout cas, les réduire au maximum?
Alors, dans la recherche scientifique, déjà, éviter trop les cosmétiques qui sont fabriqués par des expérimentations. Pour les médicaments, c'est très difficile. Ça, alors là, je veux dire que comment le citoyen peut intervenir en disant, il peut pas questionner les médicaments. Pour la viande, c'est plus simple. Pour la viande, réduisons notre consommation carnée. Une fois par semaine, ça serait parfait.
Très bien, voilà une recommandation.
Ce serait pas tout à fait parfait pour les animaux. Hein. Chaque pas qu'on fait effectivement en faveur des animaux, ça compte. Ouais. Chaque repas qu'on fait végétalien, vegan, on sauve concrètement des vies. Mm-hmm. Voilà, et les achats, comme vous dites...
Oui, c'est pas parfait, ça serait mieux. Il y a une grosse amélioration.
Il faut que chaque pas compte, effectivement, et aussi loin qu'on peut aller, c'est super.
Un mail de Corinne en entendant le reportage sur le test des cosmétiques sur les animaux, alors que l'on sait très bien reproduire et cultiver des organes, et notamment la peau. Je me demandais quelle est la part de ces outils à l'heure actuelle, Audrey Jougla.
Alors, malheureusement, on se rend compte qu'il y a pas mal de méthodes alternatives qui sont non pas utilisées en remplacement, mais en complément. C'est-à-dire que 84% des laboratoires interrogés selon le rapport Francopa utilisent en fait les méthodes alternatives en complément. Mmh. Ils font les deux, en fait. Et ils le justifient, du coup, en disant, regardez, on les utilise, bon, en complément. On utilise toujours les animaux. En substitution, c'est que 13% des laboratoires, selon le rapport. Et du coup, on voit bien le décalage qu'il y a, qui est éloquent. Et il y a surtout des méthodes alternatives qui existent, qui ne sont pas utilisées. Et ça, c'est scandaleux.
Alors, lesquelles, très vite?
Sur le test de Dres dont on parlait, il y a un nom un peu barbare, mais il y a une méthode alternative qui existe, et elle n'est pas du tout vulgarisée, elle n'est pas du tout utilisée en toxicologie. Et,
quelle est cette méthode?
Le nom est un nom...
Juste le principe, en tout cas.
C'est une méthode alternative qui permet en fait de tester la toxicité d'une substance de manière très fiable et objective sans passer
par l'animal,
par
l'animal entier.
Ouais. Exactement.
Jean Chapoutier, est-ce que les tests sont fiables, les tests menés sur les animaux, est-ce qu'ils sont fiables une fois qu'on les transpose à l'homme?
Ils sont fiables dans 99% des cas. Alors bien sûr, il y a des cas où ça marche pas. Il y a la fameuse thalidomide dont on dit qu'elle
99%
non,
des cas selon
non,
vous.
Non.
Ouh là là, si. Là,
non. Là, je suis pas d'accord avec vous.
J'ai fait de la pharmacologie. Si un chimiste me procure une molécule qui fait dormir une souris, je vous fiche mon billet que dans 99% des cas, elle fera dormir un être humain.
Non, mais il n'y a pas que ça. Enfin, c'est...
On n'est pas d'accord. On n'est pas
dans le débat maintenant, mais non.
Il y a aussi beaucoup de médicaments qui ont été retirés du marché, justement parce qu'ils avaient été testés sur des animaux et qu'après, ça a fait des problèmes de santé publique.
Les effets néfastes, on en parle jamais.
Les puristes vous diront qu'ils n'ont pas été testés assez sur assez d'animaux. Vous comprenez? La thalidomide, par exemple.
C'est un peu le syndrome de la souris blanche.
Mais si vous voulez, ça me paraît difficile dans l'état actuel des choses d'imaginer qu'on puisse tester des médicaments autrement que sur les animaux dans l'état actuel des choses.
Il n'y a pas que des médicaments utiles, et c'est là où je voudrais rappeler quand même la production massive de médicaments dans un but commercial. On n'en parle jamais, mais les firmes pharmaceutiques
ne
sont pas philanthropes.
Mais Jean Chapoutier, entre un rat et un homme de 70 kilos, on peut sans problème donc transposer, évidemment avec les doses qui correspondent.
Je ne suis pas d'accord avec mes collègues qui disent que... Mais moi, j'ai pris l'exemple du somnifère. Si je fais dormir une souris, je veux dire que dans 90% 90% des cas, ça fera dormir un homme aussi.
On n'aurait jamais utilisé l'aspirine si on s'était limité aux
insectes. Oui, mais il y a deux ou trois cas comme ça, bien entendu. Mais la majorité des médicaments sont testés quand même comme ça. Donc.
Merci
oui,
beaucoup
mais ça marche pas.
À tous les trois. On peut poursuivre le dialogue sur le site de la Tête au Carré. Vous pouvez poursuivre vos commentaires et vous répondre. Profession animale de laboratoire chez Autrement, Audrey Jougla, le chercheur et la souris au CNRS Édition, tout comme l'animal en jeu de la recherche. Et puis L214, c'est L214.com. C'est votre site internet.
Exactement.
Brigitte
Gauthier. Et je voulais juste rajouter une petite chose. Très rapidement, les droits d'auteur de mon livre sont reversés aux associations de protection animale.